Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast des écopreneurs du Drouet qui s'intitule aujourd'hui « La formation et la transition écologique ». Pour cela, nous recevons Hamid Boumidi, co-gérant de l'organisme de formation Drouet, spécialisé dans la formation sécurité, et Jean-Marc Leblouche pour Formaflow, qui forme depuis plusieurs années de nombreux étudiants sur le bassin Drouet. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Pouvez-vous commencer par nous présenter vos organismes respectifs ?
Je commence. Donc, mon organisme, c'est OFD, qui signifie Organisme Formation Drouet, puisqu'on est implanté dans le bassin Drouet. On est spécialisé dans les formations sécuritaires, donc, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, dans les entreprises, etc. On intervient majoritairement sur l'Eure-et-Loire, mais on intervient également en Île-de-France.
Alors, de mon côté, Formaflow, format comme formation et flow comme l'esprit. On va dire qu'aujourd'hui, on a un esprit d'ouverture puisqu'on est un des rares organismes de formation en Eure-et-Loire à avoir des cursus du Bac plus 2 au Bac plus 3 en alternance, puisque l'objectif est avant tout de les former à l'employabilité et sur des sujets comme le marketing, le commercial, la gestion, la comptabilité. Mais on a également tout un pan de notre activité sur la reconversion, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent changer de métier. Et pour ça, on a des titres professionnels également qu'on traite en alternance ou alors en initial, c'est-à-dire en continu. Voilà.
Merci messieurs. Rentrons dans le vif du sujet, la transition écologique. Monsieur Boumidi, vous avez déjà établi votre bilan carbone. Il en ressort que deux domaines sont particulièrement carbonés dans le secteur de la formation. Le premier, c'est le transport, notamment celui effectué par les stagiaires, et le second, pour les bâtiments. Concernant le transport, est-ce que vous pourriez nous parler des solutions qui sont envisageables pour le limiter et quels sont les freins que vous pouvez rencontrer ?
Pour limiter les transports, on a réfléchi à plusieurs choses. La première, ce serait d'essayer de digitaliser déjà les formations pour éviter un déplacement des stagiaires. Tout serait réalisé via des plateformes, etc., des vidéos et avec des mises en situation, etc. Donc c'est en cours de réalisation, on essaie de mettre ça en place. Le frein à ça, ça va être les cahiers des charges dans la plupart des formations qui nécessitent, qui obligent une présence à de la pratique, etc. Donc aujourd'hui, il faut que les organismes qui nous permettent d'avoir ces agréments, nous laissent un peu plus de liberté dans l'organisation des formations. Donc ça va être ça le frein, ça va être les libertés dans la mise en place de ces formations. Et pour le transport, on va parler aussi évidemment des voitures électriques pour essayer de limiter notre empreinte carbone. Ça, évidemment, ça va être dans un premier temps tous les sites, notre site, on est implanté au parc d'entreprise La Radio, n'est pas encore optimisé pour la mise en place de ces voitures électriques. On n'a pas de borne de recharge, etc. Donc c'est un petit peu compliqué de mettre ça en place actuellement, mais c'est également en cours de mise en place, en tout cas dans notre parc La Radio.
Merci. Jean-Marc Leblouche, concernant le bâtiment et son carbone élevé, quelles sont les solutions possibles et celles qu'a adopté Formaflow ?
Alors les solutions possibles, c'est déjà de faire en sorte, puisqu'on est dans un bâtiment, comme l'a dit Hamid, le parc de La Radio rénové, pas forcément toujours avec la bonne manufacture et l'empreinte carbone. Et ce qui se passe, c'est qu'on est soumis à, par exemple, des températures plus que froides ou plus que chaudes, avec des systèmes de chauffage un peu archaïques. Donc, l'objectif, c'est de faire prendre conscience aux bailleurs, qui est la communauté d'agglomération du Drouet, de faire en sorte de pouvoir travailler un peu mieux, ce qui est déjà en cours, puisqu'il y a un gros chantier en fait, sur le parc de La Radio à date, qui a été acté, pour revisiter l'ensemble des bâtiments. Maintenant, ça ne se fera pas non plus du jour au lendemain, donc... Évidemment, on essaie au maximum, par exemple pour les alternants, de limiter l'utilisation de chauffage électrique qu'on a malheureusement. Ça, c'est la première solution. Mais la deuxième solution, en fait, elle est aujourd'hui de travailler. On a un projet de construction relativement avancé pour justement construire un bâtiment dédié à la formation, qu'on appellera peut-être campus, et qui se veut absolument écologique. C'est-à-dire que dans cette transition, un bâtiment avec du matériel biodégradé, avec pourquoi pas à ce stade un toit végétal, mais aussi la capacité à pouvoir se régénérer et travailler effectivement plus efficacement. C'est difficile quand on n'est pas le propriétaire de son bâtiment de pouvoir agir complètement dessus. Maintenant, on peut avoir des petits gestes. Si je reprends sur le parc de La Radio, le petit geste, il est assez simple. On va éviter de mettre tout simplement le chauffage électrique sur 9 ou sur 8 toute une journée. Ça paraît désuet et peu de sens en fait sur le sujet. Maintenant, on est toujours soumis à certaines confluences. Mais la direction, c'est un nouveau bâtiment avec de l'éco-durabilité, donc de l'éco-conception.
Alors messieurs, nous avons parlé des solutions que vous pouvez mettre en place au sein de vos organismes de formation, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin en incluant les principes de la transition écologique au sein même des programmes de formation ? Hamid, je vous laisse commencer.
Oui, on pourrait, comme je vous ai dit, on a évidemment des freins, etc. Mais on essaye, par exemple, de virtualiser nos formations. On avait parlé une fois des formations manipulation des extincteurs, donc une formation qui est obligatoire dans les entreprises, à renouveler régulièrement, etc. Donc ça, c'est une formation qui consomme énormément des extincteurs, le recyclage, c'est compliqué. Mais pareil, l'émission de CO2, etc. Donc, on est en train de passer à une virtualisation de ces formations avec, par exemple, des casques VR qui est aujourd'hui pas mal sur le marché, assez présent, etc. Donc, on est en train de mettre ça en place également. Donc là, c'est très prochainement, on pourra proposer nos formations virtuelles. Donc, on pourra avoir différents scénarios pour éteindre des feux dans un camion, dans un bureau, quel extincteur choisir, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais là, encore une fois, le frein, c'est est-ce que les clients sont prêts à bifurquer là-dessus ? Parce que là, on perd un peu de réalisme. Parce que là, ce ne sera plus des vrais feux, on n'aura plus les vraies peurs, la température, etc. Donc, on espère que ça va passer auprès des clients. Mais en tout cas, ce sera mis en place et on espère un bon retour là-dessus.
Jean-Marc ? Alors nous, de notre côté, on a déjà fortement acté, comme pas à pas d'ailleurs, on a fortement acté le fait de passer dans cette transition écologique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos cursus, on a intégré depuis maintenant 2 ans un verdissement, c'est-à-dire qu'on travaille sur une politique RSE, une responsabilité sociétale, environnementale et économique. On sensibilise l'ensemble de nos alternants sur le sujet. On essaie aussi de sensibiliser nos clients employeurs, c'est-à-dire les alternants, c'est-à-dire les entreprises qui emploient les alternants. Et donc, on est déjà rentré en fait dans ce schéma-là. Ça fait maintenant 2 ans. Alors, pas à pas, c'est déjà prévu dans certains programmes de l'éducation nationale, du ministère du Travail ou d'autres certificateurs. Mais on a décidé d'aller plus loin. Plus loin parce qu'on consacre désormais des journées entières. Et par exemple, les nouveaux cursus de BTS qui sont intégrés en 2022 ont quasiment une journée par mois focalisée sur ce sujet. Donc, on cherche avant tout à verdir. Évidemment, comme l'a souligné Hamid, on aimerait faire plus, je dirais, de formation à distance. Maintenant, on reste avec un public parfois jeune. Ils ont vécu pour certains le Covid. Ça n'a pas toujours été très simple. Mais on doit aussi, de ce côté-là, justement, dans un prochain, je dirais, une prochaine séance, à pouvoir acter de formation plus dynamique, plus virtuelle, évidemment, mais sans oublier qu'en présentiel, on est capable aujourd'hui de verdir et d'aborder des sujets importants qu'on va pouvoir intégrer complètement, je dirais, dans un programme, par exemple, de développement commercial, dans un programme marketing, dans un programme aussi de gestion d'une PME. On parle beaucoup en ce moment de comment faire pour passer l'hiver. Eh bien, qu'une personne qui accompagne le dirigeant d'entreprise soit affairée et centré sur cet objectif en faisant attention à tout ça, ça doit faire partie en fait de cette transition qu'on doit amener à ces chers alternants. Donc on va chercher avant tout, un, à leur apprendre, puis aussi à les sensibiliser, parce que évidemment c'est la génération de demain. Donc,
Tout à fait. On voit que vous êtes tous les deux impliqués dans la transition écologique. À votre avis, le rôle des entrepreneurs dans cette transition ? Je recommence. On voit que vous êtes tous les deux très impliqués dans la transition écologique. À votre avis, quel rôle les entrepreneurs ont à jouer face aux enjeux climatiques et environnementaux qui sont devant nous ou déjà là ?
Déjà, je pense qu'on doit jouer un rôle. On doit sensibiliser déjà nos collaborateurs. On ne doit pas minimiser les risques et ces enjeux-là. On doit sensibiliser, on doit essayer de mettre des choses en place, on doit en discuter avec, par exemple, avec Jean-Marc, etc., entre nous, pour voir ce qui est envisageable, parce qu'on n'a peut-être pas les bonnes pratiques, peut-être qu'on peut nous conseiller, on peut nous proposer d'autres alternatives. Donc il faut en discuter, il faut être sensibilisé. Et déjà, quand on sait, c'est déjà un grand pas.
Alors, comme l'OFD et Formaflow, on est situé sur le même parc d'activité de la radio. On s'est dit toujours qu'il est nécessaire de commencer par des petites choses. Et les petites choses, c'est quoi ? C'est déjà qu'on installe une économie circulaire forte, en fait, sur ce parc de la radio. Ça, c'est un premier jet. Ça va être, et donc là, on va mobiliser, et on fait partie d'un collectif éco-entrepreneur du Drouet. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est que ces entreprises qui sont des ambassadeurs pour le Drouet continuent, et Hamid, comme moi-même, on cherche avant tout à être ces ambassadeurs, à convaincre, à faire en sorte que les autres entrepreneurs rentrent déjà dans, rentrent aussi dans cette démarche. Ce n'est pas toujours très simple, mais on va, nous sommes des gens obstinés, donc on y arrivera. Et puis, je suis assez d'accord avec Hamid, c'est les collaborateurs. Pour nous, ce sont les alternants, les stagiaires. Ça doit passer par des choses simples. Tout à l'heure, on parlait, nous, bon, aujourd'hui, dans notre bilan carbone, on a la moitié de notre impact, qui est de 66 tonnes. On a la moitié de ces 66 tonnes qui sont tout simplement impactées par le transport. Alors on peut se dire, comment on fait pour résoudre ça en province, avec des zones rurales? Compliqué. Donc, il y a les voitures électriques, mais il n'y a pas que ça. En fait, tout simplement, on peut commencer déjà à suggérer, dès le premier jour de formation, à ce qu'on ait déjà répertorié l'ensemble des adresses de chacun pour pouvoir faire du covoiturage, qu'ils se connaissent mieux déjà. En plus, ça va permettre une plus grande proximité. C'est un geste simple. Mais quand on a 4 personnes dans une voiture, on va diviser quasiment par 3, en fait, son impact carbone. Donc, ça veut dire que quelque part, nous, dans notre bilan carbone, bah, en tant que chef d'entreprise, ou en tout cas chef d'établissement, peu importe, on va agir effectivement aussi sur nos collaborateurs et alternants. Pareil pour les formateurs. On cherche avant tout à ce que, bah, s'ils viennent de Chartres-sur-Dreux, par exemple, bah, on va éviter d'avoir une personne dans une voiture. Bah, ça paraît simple, mais c'est un geste de chef d'entreprise que de pas s'arrêter à la simple réponse « non, j'ai d'autres choses à faire après ». Non, on va chercher avant tout à continuer à œuvrer, et pas à pas, ben on y arrive. Alors, on ne va pas avoir 100% de réussite, ça se saurait, mais on va chercher avant tout. Donc, pour moi, deux axes. Un, assembler ou rassembler les chefs d'entreprise. Deux, quand on est dans la formation, ben c'est sensibiliser les stagiaires et les collaborateurs. Attenant. Et puis, trois, j'aurais tendance à dire aussi qu'on doit être, nous, très vigilants dans notre politique achat. C'est-à-dire de privilégier des fournisseurs proches de chez nous, proche du bassin de Rouet. On doit faire attention dans les cahiers des charges lorsqu'on achète, pour évidemment y mettre des clauses de responsabilité sociétale environnementale. En fait, on doit chaque jour en fait, avoir une pensée, certes petite par moment, mais efficace. Et donc, je crois que notre rôle, il est avant tout de constamment être les ambassadeurs d'un élément dont on parle beaucoup, mais souvent sur lequel on agit peu. Et c'est ce qui me perturbe souvent. C'est une activité pas à pas qu'on doit mener, et petit à petit, on y arrivera. Donc pour nous, c'est, je crois que, en tout cas avec Camille, on est assez d'accord. Voilà, c'est tous les jours, en tant que chef d'entreprise, qu'on doit être capable de pouvoir informer, et parfois désinformer, mais aussi convaincre, en fait.
Hamid, Jean-Marc, merci beaucoup pour vos interventions.
Merci à vous.
Merci.
Avec plaisir.